on a parlé de logistique qui suit. On va pouvoir tester la logistique parce que j'ai oublié de dire à Gabriel que j'avais un PowerPoint à afficher pendant la prédication. Mais donc Gabriel, tu le trouves comme d'habitude dans le répertoire temporaire. Et puis je veux bien la télécommande aussi pour passer. Voilà, voilà, voilà. Gabriel avait déjà tout prévu. Merci Simon. C'est un plaisir d'être devant vous. Les vacances, comme le disait Anne-Marie, c'est l'occasion de voir les choses différemment et de faire un bilan. Et je me disais en relisant la prédication ce matin que c'était un lieu privilégié que de pouvoir partager la parole avec des frères et sœurs que l'on aime, et je suis reconnaissant de pouvoir la partager avec vous ce matin. Ce matin, j'aimerais lire un psaume. Les psaumes, on les utilise dans la louange, mais pas forcément pour la prédication. Et pourtant, ils ont à nous enseigner. Et ce matin, je vous propose de lire le psaume 15, un psaume assez court. Vous pouvez le chercher dans vos Bibles, ou alors il s'affiche, vous pouvez suivre. Ouais, c'est petit, il faut de bons yeux pour suivre, mais il est affiché dans la version où je vais le lire. Psaume 15, psaume de David. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sacrée? Celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice et qui parle loyalement de tout cœur. Il n'utilise pas sa langue pour calomnier, il ne fait pas de mal à son prochain et il n'outrage pas ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne se rétracte pas s'il fait un jugement à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Celui qui agit ainsi ne vacillera jamais. Jusqu'ici, notre lecture. Donc voici un psaume. Les psaumes, on a l'habitude de les voir comme des prières, comme des chants adressés à Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils trouvent une place naturelle dans le temps de louange. Le texte qu'on a lu ce matin, je ne sais pas si c'était un chant, si c'était quelque chose qui était chanté. En tout cas, je crois que c'était quelque chose qui était utilisé dans le temple lors du culte, comme un dialogue liturgique. On en a dans l'Église parfois de ces dialogues, par exemple pour recevoir les nouveaux membres, qui sont écrits mais qui pourtant ont un sens. Un dialogue fait pour être utilisé pendant le culte. Un dialogue qui s'ouvre par une question. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sacrée? La question c'est: comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Comment avoir accès à lui? Peut-être comment aussi obtenir de lui ses faveurs? Souvent, quand on se tourne vers Dieu, on a des demandes. Comment faire pour qu'il nous écoute? En un mot, si je devais résumer, pour moi, la question telle que je l'aperçois, c'est: comment lui plaire? Comment plaire à Dieu? Et c'est une question assez courante, au moins à l'époque, dans l'Antiquité. C'est une question que se posent les différents cultes. C'est une question, par exemple, qui est écrite au temple de Delphes, une question de ce genre. Et on la trouve dans la Bible aussi. Des rois qui viennent vers des prophètes. Que dois-je faire dans la situation où je suis? Qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour montrer que je suis repentant? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Je souligne quand même que la préoccupation du psalmiste, elle n'est pas juste de rentrer, de s'approcher, puis de repartir aussi sec. Elle est quand même de rester, de passer du temps avec Dieu. Il ne veut pas juste rentrer, il veut rester auprès de lui. Il veut séjourner dans sa tente. Il veut demeurer sur sa montagne sacrée. Bref, il veut être chez lui, il veut être son hôte. Un peu comme nous l'avons chanté. Dans ta maison, je reviendrai dans ta maison, Seigneur, près de toi. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à la réponse qui se trouve dans ce psaume. Elle est surprenante. Parce que d'habitude, quand les personnes qui s'approchent de Dieu ou qui s'approchent des dieux polythéistes de la région, la question, la réponse, elle est rituelle. Il va falloir faire telle ablution, il va falloir apporter telle offrande, il va mettre tels habits, etc. Et la Bible aussi, parfois, te dit, quand tu t'approches, prends un animal avec telle caractéristique. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, le psalmiste parle d'autre chose. Et j'aimerais prendre le temps d'observer le texte pour essayer de voir ce dont il parle. Je vais durer un peu le suspense. Les psaumes, c'est de la poésie. Et la poésie, c'est un texte qui est construit, qui n'est pas juste comme ça. Et j'aimerais qu'on jette un œil à la structure de ce psaume. Alors, pour travailler la structure, j'ai un peu retravaillé le psaume, changé la présentation, ça saute aux yeux, aussi changé quelques mots. Je vous explique. Donc, on a une première partie où il y a une question. Ça, on l'a tous identifié. Une deuxième partie avec la réponse et une troisième partie plutôt comme une conclusion. Mais cette réponse, elle est elle-même structurée. Et je vous demande de me croire, mais si vous voulez vérifier vous-même, méditez ce psaume aussi, mais je trouve que, il me semble, la réponse, c'est la première ligne. Pour s'approcher, celui qui peut s'approcher, c'est celui qui suit la voie de l'intégrité, et que derrière, nous avons 10 propositions qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire, suivre la voie de l'intégrité. Un peu comme si on avait 10 commandements de celui qui veut être intègre. Donc du coup, j'ai un peu changé, j'ai retiré les « celui » pour les remplacer par « il », les « qui » également, et pour faire apparaître ces 10 propositions. Et j'ai trouvé des traductions qui faisaient la même chose. Les traducteurs doivent faire des choix. Je trouve que ce choix rend justice au texte en faisant apparaître sa structure. Revenons au texte. Qui peut séjourner dans la tente du Seigneur? Qui peut demeurer dans sa montagne sacrée? La réponse est simple, comme je l'ai dit, une ligne. C'est celui qui suit la voie de l'intégrité. L'intégrité, c'est être entier, être un tout. Dans la Bible, c'est être sincère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce que je donne à voir de moi, ce qui est extérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça, je suis un tout, pas deux parties distinctes, deux interfaces. Donc voilà, être entier. Mais ce n'est pas assez précis, c'est trop vague. D'où le détail avec 10 commandements, 10 paroles qui expliquent qu'est-ce que c'est qu'être intègre. Et quand on regarde, on se rend compte qu'il y a des propositions affirmatives et des propositions négatives. hein, avec une alternance. Deux propositions affirmatives, trois négatives, deux affirmatives, trois négatives. Et je crois qu'il y a une leçon à tirer de ça, c'est que faire le bien, ce n'est pas seulement une direction. Des fois, on nous encourage avec ces bonnes paroles, l'important, c'est de faire le bien, l'important, c'est d'aimer tout le monde, et voilà. Et on donne une direction générale comme ça, dans laquelle on peut faire son choix. Mais être intègre, c'est aussi des choses qu'on ne fait pas. D'où ces phrases négatives, positives pour montrer la direction et négatives pour montrer aussi les sens interdits. Je propose de regarder en détail ces différentes propositions et je les ai regroupées. Je trouve qu'elles se regroupent, qu'elles vont ensemble. Au début, j'ai mis les trois premières ensemble. L'homme intègre, il pratique la justice, il parle loyalement de tout cœur, il n'utilise pas sa langue pour calomnier. Je les ai mis ensemble parce que ça m'a sauté aux yeux. Celui qui intègre, ça se voit dans ses actes et dans ses paroles. Dans ses actes, il pratique la justice. Pratiquer la justice. La justice, c'est difficile à appliquer, n'est-ce pas ? On ne connaît jamais tout, alors comment peser ? Qui a tort ? Qui a raison ? On le sait bien. Toute situation est plus ou moins grise. Alors du coup, on essaye de faire le mieux possible. Mais là, ce n'est pas ça. Pratiquer la justice, ce n'est pas essayer de faire ce qui me semble le mieux. La justice, telle qu'elle est présentée ici, c'est quelque chose qui est extérieur, une notion extérieure, un absolu. Et donc, cette personne intègre recherche la justice et cherche à l'appliquer. Elle ne cherche pas à faire ce qui lui semble bon, mais cherche ce qui est bon, ce qui est juste pour l'appliquer. Ça, c'est ce qui conduit ses actes. Et ce qui conduit ses paroles, c'est de parler loyalement de tout cœur, c'est-à-dire en fait de dire ce qu'il pense, de ne pas être hypocrite. Alors, souvent quand on dit de soi-même qu'on dit ce qu'on pense, c'est pour excuser une certaine rudesse, excuser d'être direct, de balancer, au moins je dis ce que je pense, au moins je ne suis pas hypocrite. On peut faire l'inverse. On peut vouloir dire de belles choses, des choses gentilles aux gens, c'est une belle motivation. Et plutôt que de changer nos paroles pour qu'elles reflètent notre cœur, pourquoi ne pas changer notre cœur pour qu'il soit en phase avec les paroles qu'on aimerait dire ? J'aime bien la traduction proposée pour ce vers par la Bible en français courant, qui dit non pas qu'il dit ce qu'il pense, mais qui dit « il pense vraiment ce qu'il dit ». L'effort, il le met sur « penser ». Il pense vraiment ce qu'il dit. Le psaume, avec le vers suivant, met un point sur un autre problème, celui de la calomnie. La calomnie, c'est dire des choses fausses sur les autres pour les dévaloriser. Le texte que j'ai lu choisit le terme calomnie, mais là encore, je regarde vers une autre traduction qui dit « laisser courir sa langue ». Et cette traduction, elle est plus proche du terme hébreu utilisé. Alors, « laisser courir sa langue », c'est assez flou, mais j'aime bien l'image parce qu'elle nous montre bien ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est que quand on parle, quand on se laisse aller, la tendance, elle n'est pas à empiler des compliments. La tendance, elle est plutôt à trouver la petite bête et celle de plus en plus grosse et à dire du mal. Celui qui intègre, il ne laisse pas courir sa langue. Au contraire, il la maîtrise. Il en dit le moins possible pour ne pas dire du mal des gens. se maîtriser, c'est dire des belles choses et les penser à propos des gens. Deuxième regroupement, celui qui est intègre ne fait pas de mal à son prochain, il n'outrage pas ses proches. Alors, j'ai cherché pendant longtemps quelle était la différence entre prochain et proche. Je me suis dit que si le psalmiste utilise deux mots, c'est qu'il y a une nuance à saisir, qu'il y en a qui ne sont pas pareils que d'autres. Peut-être que les proches, c'est ceux que j'aime, c'est ma famille, c'est mon conjoint, c'est ceux que j'ai choisi, et que mon prochain, c'est mon voisin, celui que je croise dans la rue. Le problème, c'est que quand j'ai regardé les traductions, il y en avait qui inversaient les deux termes. La proximité n'était pas mise au même endroit. Et quand j'ai regardé un peu les termes en hébreu, en fait, c'est deux termes qui sont assez souples et qui, tous les deux, peuvent désigner des gens très proches, qui sont dans mon cercle intime, ou des gens qui sont mes voisins. Les deux termes peuvent être interchangeables. Les deux termes sont synonymes et ont à peu près le même champ lexical. Et ça m'a appris une leçon. Que pour Dieu, cette notion de qui est-ce qui est proche de moi et qu'est-ce qui est un peu plus loin, elle est floue. Pour Dieu, tous ceux que je croise, je suis appelé à en prendre soin et à les considérer comme des proches. Et à vouloir essayer de faire le tri, de distinguer, alors qu'est-ce qui est dans un cercle plus proche, qui est dans... Je suis en train de me planter. Ce que Dieu m'appelle à faire, c'est d'ouvrir mes bras et d'accueillir. Et donc, avec ces personnes que je croise, qui me sont proches, l'homme intègre ne fait pas de mal et n'outrage pas. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du tort, il ne fait pas des choses qui leur font du mal, qui vont à leur encontre. Il ne les insulte pas, il ne les diminue pas. Et en fait, c'est une invitation à se poser la question. Quand on agit, est-ce que ça fait du bien aux autres ? Jésus a eu cette parole où il a demandé de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent, qu'ils nous fassent. C'est une bonne inspiration pour nous. Avec les deux vers suivants, nous apprenons que celui qui est intègre repousse ce qui est méprisable à ses yeux et il honore ceux qui craignent le Seigneur. Alors là, on a une paire de vers, comme on en trouve beaucoup. Si vous lisez les proverbes, par exemple, vous avez souvent ça. Deux vers qui sont ensemble, qui ont l'air d'être symétriques et qui, en fait, quand on le regarde, ne le sont pas. Ils ne sont pas symétriques parce que s'ils étaient symétriques, on dirait qu'il repousse celui qui est méprisable à ses yeux et il honore ce qui est honorable à ses yeux. Ou alors, il repousse celui qui se moque du Seigneur et il honore ceux qui craignent le Seigneur. Mais là, il y a une dissymétrie. Et cette dissymétrie nous enseigne quelque chose. Nous enseigne que ce qui est honorable, c'est de craindre le Seigneur. Et que de s'en moquer, c'est méprisable. Et en fait, l'homme intègre, il fait sienne les valeurs de Dieu. Au point de les confondre. Ce que Dieu désapprouve, il le désapprouve, et ce que Dieu approuve, il l'approuve lui-même. Ça, c'est une première chose, faire sienne les valeurs de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est mettre en pratique dans le choix de ses fréquentations. Et c'est dans le choix de nos fréquentations, des personnes avec qui on passe du temps, qu'on voit ce qui compte pour nous. Si je crains Dieu, si j'aime Dieu, Alors je recherche la compagnie de ceux qui l'aiment également, pour être stimulé avec eux et me tourner vers lui et grandir en lui. Et si j'aime Dieu, j'évite la compagnie de ceux qui ne l'aiment pas, de ceux qui se moquent, et ceux, si je les fréquente trop longtemps, qui risquent de me traîner vers le bas, vers eux. Nous l'avons vu, je leur fais du bien à tous, mais je ne les écoute pas tous de la même façon, je ne passe pas le même temps avec tous de la même manière. Je mets ensemble les trois derniers vers. Celui qui est intègre ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Il ne se rétracte pas. C'est-à-dire que s'il a fait une erreur, s'il s'est mis dans une situation compliquée, il assume. Il assume parce que sa parole, son intégrité est plus importante que son intérêt. Également, il ne prête pas son argent à intérêt. Je ne sais pas si ça vous surprend, ça. Dans notre monde, dans notre société capitaliste, que ce soit placé comme une faute, comme un péché, c'est quand même en conflit avec les valeurs de notre société. Dans la Bible, l'argent ne sert pas à faire de l'argent. Dans la Bible, l'argent est vu comme une bénédiction. En avoir est une bonne chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui sert à écraser l'autre. Or, celui qui emprunte, c'est celui qui est pauvre, qui en a besoin en tout cas. Et que le riche se serve de ce qu'il a, la bénédiction que Dieu lui a donnée, pour prendre encore plus aux pauvres et l'écraser encore plus, c'est contraire à ce que Dieu attend. C'est contraire à l'intégrité. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Tout à l'heure, juste avant, on disait, il n'utilise pas son argent, sa position de force pour en obtenir encore plus. Là, pareil, si dans sa fonction, il peut attribuer des choses, s'il a une responsabilité, il ne s'en sert pas pour son intérêt personnel. Il n'accepte pas que certains viennent le voir. Toi qui as le pouvoir, est-ce que tu pourrais m'accorder ceci ou cela? Et tiens, je te donne un petit quelque chose. Ça, il ne l'accepte pas. Du coup, dans les deux derniers vers, on voit qu'il n'utilise pas sa position de force, ni l'argent qu'il a, ni la fonction qu'il a, pour en tirer profit pour lui-même. Et si je conclue sur ces trois vers, je dirais que l'homme intègre, qu'il soit en position de force ou en position de faiblesse, il ne cherche pas son intérêt. Mais il continue de pratiquer la justice. Voilà ce que fait l'homme intègre, l'homme qui plaît à Dieu, l'homme qui séjourne, qui peut séjourner dans sa tente, qui peut demeurer sur sa montagne sacrée. Et en conclusion, il est écrit que celui qui agit ainsi ne vacillera pas. Je trouve ça beau. Non seulement il plaît à Dieu, mais également il en tire un avantage pour lui-même dans sa vie. Il ne vacillera pas parce que les gens qui agissent ainsi, ils sont stables, ils sont droits. Il ne vacille pas. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sacrée? Cette question, je le disais, elle était courante dans l'Antiquité, avec tant de dieux pour tant de peuples, on ne savait pas forcément comment s'approcher d'eux. Cette question, est-ce que c'est encore une question pour aujourd'hui? Je le crois. Je le crois, et cette question, il arrive qu'on me la pose quand je rencontre des personnes qui ne sont pas croyantes et qui veulent s'ouvrir à cela. Et qui demandent, qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, qui demandent, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire si j'entre dans votre religion? C'est toujours une question surprenante quand on est chrétien, protestant de longue date, parce que on trouve qu'on est en décalage. On sait que le salut, on l'a par grâce. Il n'y a rien qu'on peut faire pour le mériter. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour être sauvé. Mais je pense qu'on pourrait quand même se poser la question. Comment plaire à Dieu? Parce que si on n'a rien besoin de faire pour être sauvé, ça peut être chouette quand même de plaire à Dieu. Même si ce n'est pas pour être sauvé, on peut lui plaire parce que nous l'aimons, tout simplement, et que nous cherchons à faire ce qui lui plaît. Attention donc, avant de mettre de côté un texte comme celui-ci, on peut aussi être tenté de le mettre de côté en disant « c'est l'Ancien Testament, ça ne s'applique plus aujourd'hui ». Pendant des siècles, Dieu s'est révélé. Il a expliqué à son peuple ce qu'il aimait. Ce n'est pas parce qu'il a dit un jour qu'on avait accès au salut par grâce et que tous pouvaient rentrer, qu'il a arrêté d'aimer l'intégrité. Salut Sarah. Dieu aime toujours l'intégrité et ceux qui veulent lui plaire devraient s'inspirer de ce psaume. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce qu'on a lu, dans les 10 propositions, toutes concernent la relation qu'on peut avoir avec son prochain. Toutes concernent la relation qu'on peut avoir avec d'autres. Il n'y a nulle part, Dieu a dit, pour moi, tu fais ça. Les 10 concernent avec les autres. Voilà comment tu te comportes. Pour tous ceux qu'on croise, pour ses proches, pour sa famille, pour ceux avec qui on vit, pour ses voisins, pour ses relations professionnelles ou ses relations d'affaires, pour les plus forts que nous, pour les plus faibles que nous. Tout est dans la relation. Pour pouvoir demeurer auprès de Dieu, pour pouvoir séjourner avec lui, ce n'est pas dans mon attitude à l'Église que ça se passe. Ce n'est pas en venant tous les dimanches, ce n'est pas en chantant de tout mon cœur, ce n'est pas en servant un maximum à l'école du dimanche, à la sono, faire le ménage, tout ça avec le sourire. Ce n'est pas en accueillant tout le monde et en étant sympathique. Toutes ces choses-là sont bonnes et très bonnes. Mais ce que dit ce psaume, c'est que c'est dans la vie que ça se passe. Dans la vie tous les jours. Comme si l'Église, ce n'était pas un lieu. Comme si l'Église, ce n'était pas seulement quand les chrétiens se rassemblent le dimanche. Mais l'Église, c'est partout. C'est là où les chrétiens sont. C'est là où les chrétiens sont dispersés pendant la semaine. Au travail, à l'université, à la maison, dans la rue. C'est comme si, quand l'Église est dispersée, elle continue à être Église. Et je crois que je suis persuadé que ça reste valable aujourd'hui. Et ça reste valable parce que, tout simplement parce que Jésus l'a dit. Quand il a été interrogé par les pharisiens, qu'on lui a demandé, « Maître, c'est quoi le commandement le plus grand ?» Il a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand, le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer Dieu, plaire à Dieu, c'est semblable à aimer son prochain. Voilà ce que Jésus dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a enseigné dans le sermon sur la montagne, ce qu'il a enseigné au cours de sa vie sur terre. Et il nous demande de faire de même. Ceux qu'il envoie pour être ses disciples, il leur dit, gardez mes commandements, faites ce que je vous ai enseigné. Alors nous sommes invités, nous aussi, à vivre de la même façon, à vivre cette intégrité. C'est peut-être un peu impressionnant, peut-être même un peu décourageant. Mais avec Jésus, avec nous, nous avons le Saint-Esprit en nous qu'il a envoyé, qui nous transforme. Donc pour devenir cet homme intègre, pour devenir cette personne intègre, nous avons l'aide de Dieu lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il faille rester les bras croisés sans agir. Ok, Dieu va me transformer, j'attends. Non, on écoute le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va très vite nous montrer dans notre vie où il y a des problèmes. On écoute sa voix quand il nous dit « Tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. » Et ensuite, on suit ses recommandations de ne pas faire et si c'est trop dur, on prie. Que le Saint-Esprit nous donne la force de le faire, et il la donne, mes amis. Il donne sa force à ceux qui lui demandent et à ceux qui prient. Aussi, en conclusion, j'aimerais vous encourager à avancer dans cette voie, à vous poser, vous aussi, comme cette personne au tout début du psaume qui demande « Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sacrée ? Seigneur, comment te plaire ? Posons-nous la question. » Et si nous l'aimons, mettons-nous en route pour lui plaire, effectivement. Parce que ce qui lui plaît n'a pas changé. Au cours des siècles, il aime toujours celui qui suit la voie de l'intégrité. Que le Seigneur nous transforme. Amen.